Bonjour à tous. 3 minutes au cas où il y aurait des questions en suspens, parce qu'aujourd'hui on a un des cours les plus denses, les plus compliqués. Bon, je termine ce qu'on n'avait pas fini la semaine dernière. On avait commencé à parler, je me retrouve des papiers, des rapports entre écriture et tradition. Et du côté du catholicisme romain, le 19e siècle a été délicat, pour ne pas dire orageux. La dernière, enfin, entre 1850 et 1950, ou pour être encore plus précis, 1947. Pourquoi ? Parce qu'on a fait, on a dû faire face à ce qu'on appelle la crise moderniste, c'est-à-dire la crise moderniste, ça a été le moment où, du point de vue chrétien de façon large, que ce soit protestant, catho, orthodoxe, ils étaient un peu dans les nuages, mais enfin bon, on a dû affronter la lecture critique du point de vue de l'histoire sur ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, ce qu'on pratiquait. Et là, il y en a eu qui ont une réaction extrêmement... Enfin, il y en a eu que... L'institution en tant que telle a été très frileuse pendant longtemps et tout ce qui relevait de l'histoire, etc., c'était... compris comme une atteinte à la foi, à tel point que même maintenant, il y a le célèbre serment anti-moderniste qui est exigé dès que vous avez un poste, une place, un rôle moyennement important. Curé d'une paroisse, par exemple. Bon, je ne dis pas, quand vous êtes prof dans une fac, alors là, il faut faire le serment 4 fois, moi. Et bon. Mais ce sont des reliquats, comme on dit, de cette crise qui a été très, très dure à avaler, le temps qu'on a mis à prendre en compte la dimension historique de toute réalité. Et il y a des trucs très drôles, parce qu'évidemment, dans les années, disons, après la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Deuxième, dans les séminaires et dans les facultés, il fallait expliquer les vérités. Comme on dit de façon erronée, mais enfin, les vérités de toujours. Bon. Et il fallait surtout ne pas donner à penser les nouveautés. Alors, je me souviens très bien, enfin, je n'ai pas vu ça, mais on m'a raconté qu'il y avait eu un prof très connu qui avait mis en place une astuce particulièrement fine pour déjouer les censeurs. Supposons qu'il avait 2 heures pour expliquer le Pentateuque, par exemple. Et donc, il passait 1h50 de son cours à expliquer les théories des ennemis, en détail, avec force. Et à la fin, pendant 5 minutes, il disait « tout ça, c'est faux ». Mais les gens qui normalement sont bien constitués, ils sentaient très bien que l'argumentaire n'était pas mauvais. Donc, par cette manière, il faisait passer ce qu'il lui vraiment croyait réellement au fond de lui. Mais voilà, quand on arrive à ce genre de stratégie. Les protestants, ils n'avaient pas trop ces problèmes, dans le sens qu'ils n'étaient pas soumis à une autorité centrale. Ce qui, parfois, ils regrettent. Nous, on se plaigne parce que c'est trop, et eux, se plaignent parce que c'est pas assez. C'est toujours la même histoire. Trouver les justes moyens. Du côté, par exemple, effectivement, le rapport entre tradition et Bible, et comme vous l'avez dit, ils partaient toujours de la célèbre, du célèbre axiome de Luther, sola scriptura. C'est-à-dire l'écriture, tout ça. Mais le problème, c'est qu'avec toutes les études qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait énorme, et le fait même de beaucoup de protestants, ben, on s'est rendu compte que l'écriture est le produit aussi de la tradition. Et vous en avez, par exemple, le Nouveau Testament, les synoptiques, enfin, les évangiles, etc., transportent avec eux des textes, des morceaux et des perspectives qui relèvent de la tradition liturgique, de la tradition catéchétique, etc. Donc, il n'est pas censé de mettre d'un côté la tradition et de l'autre côté la Bible, parce que la Bible est faite justement des traditions. Donc, maintenant, tout le monde s'est calmé. Les protestants ne sont pas obsédés par la sola scriptura. Et les cathos ont mis quand même beaucoup d'eau dans leur pinard de la tradition. Parce que dans la tradition, il y a, c'est le cas de dire, à boire et à manger. Une manière très importante de dépasser les divisions et les incompréhensions entre cathos, orthodoxes, protestants, etc., c'est de travailler ensemble à des projets communs. Donc, par exemple, je suis en plein dedans depuis quelques années, la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. La première fois où on est arrivé à faire une traduction œcuménique avec des introductions et des notes, ce qui était l'abomination pour les protestants, parce que les protestants, le texte et l'Esprit Saint vous donnent la bonne lecture. Et ils ont accepté effectivement de faire une traduction commune avec des notes et des introductions. Ils ont avalé un sacré couleuvre. Hein. Bon, et ça s'est mieux passé. Maintenant, la TOB, c'est une traduction des références. Donc là, c'est quand même extrêmement positif. Et là, on est en train de préparer une nouvelle. Et cette fois, avec la collaboration même des rabbins juifs. Surtout pour le Nouveau Testament, certains textes, comme l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains, ça fait que beaucoup de juifs ont des boutons, quand on lit Paul, mal lus. Mais enfin bon, bref. Donc, et cette manière de travailler comme ça, c'est très positif. Bon, une autre activité, c'est l'ACAT, je ne sais pas si vous connaissez, l'Association des chrétiens contre la torture, contre la peine de mort. Bon, mais là aussi, on est des catholiques, des protestants, des orthodoxes, même, ils ne sont pas très nombreux, c'est pour ça qu'on les trouve partout. toujours la même. Bon. Et là aussi, dans une action concrète et précise de la lutte concrète contre la peine de mort ou contre la torture, etc., on se retrouve. Et c'est là où on voit que qu'est-ce qui compte. Et là, troisième exemple, nous avons à l'Institut catholique, l'Institut supérieur de l'œcuménisme. Donc là, une formation au niveau de master avec un diplôme catholique des masters, donc licence canonique, et qui est, on apprend autant le catholicisme que le protestantisme, que l'orthodoxie. Les profs sont des tous les tribus différentes. C'est le seul institut de ce genre qui existe au monde, dans la mesure où la direction est tournante. Il y a parfois, actuel, je ne sais plus qui c'est, c'est un gâteau maintenant, moi j'en ai connu, des directeurs de ces organismes qui délivrent de degrés universitaires catholiques dirigés par un orthodoxe ou par un protestant. Et là, effectivement, bon, c'est tout à fait une manière de faire progresser l'écuménisme. Dernier point, le rôle du magistère. Dans la perspective, donc, de comment la révélation arrive à ses destinataires. Dans cette perspective, on se pose la question du magistère, parce que surtout dans les mondes catholiques, on en parle tout le temps. La question n'est pas simple, d'autant plus qu'il faut faire la différence entre ce que la réflexion théologique peut proposer, ce que l'Église dans son expression la plus indiscutable et officielle dit, et c'est que on va colporter dans la Croix, le Figaro, Libé, ou tout ça. Ou bien, maintenant, dans les réseaux sociaux. Et là, vous trouvez de tout, le reste est son contraire. Mais tout n'est pas du même niveau. Ces différents niveaux doivent être toujours bien distingués. Les différents documents même émanant du Vatican n'ont pas tous le même statut. Une chose, c'est un texte fruit et produit d'un concile. Une autre chose, c'est l'exhortation apostolique signée par l'évêque de Rome à la suite d'un synode. Maintenant, ça vient de changer encore, dans la mesure où les documents final du synode, par lui-même, aura la même autorité que préalablement avait l'exhortation apostolique signée par le pape. Donc le pape a, disons, délégué, si l'on peut dire, à l'assemblée du synode elle-même l'autorité qui jusqu'alors lui était réservée. Ce qui donne cette manière de voir qui est en train de changer, ce qu'on appelle la synodalité, qui est extrêmement importante, parce que ça en va de la manière de gérer la communauté chrétienne. C'est quand même pas la même chose que synodalité, c'est pas un gros mot, mais bon, presque. Pour certains, ça l'est. Parce que moi, ils ont horreur de ça. Là, vous savez, tous les diocèses peuvent faire un synode. Et il y en a plein de diocèses qui l'ont fait et qui ont été tout à fait positifs. Le problème pour un certain nombre d'évêques, pour un nombre d'évêques certains, c'est que d'après les statuts des synodes diocésains, les conclusions acceptées par l'assemblée synodale dans laquelle il y a des laïcs, des prêtres, des pas prêtres, enfin, les forces vives de ces diocèses, les conclusions, l'évêque doit obligatoirement les proclamer et les faire siennes. C'est pour ça qu'il y a certains diocèses où il n'y a jamais eu de synode. L'évêque ne s'engageant pas du tout à proclamer quelque chose qui ne vient pas de lui. À Paris, par exemple, il n'y a jamais eu de synode. Chez moi, à Pamplune, non plus. Et pourtant, ça fait quand même 50 ans que le concile s'est fait, mais on glisse. Bon, on va faire des concentrations d'enfants de cœur, ou des concours de sonneurs de cloches, chez moi par exemple, oui. Mais synode, pas question. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et ils ne veulent pas, certains évêques, un bon nombre d'ailleurs, d'être obligés à faire sienne les conclusions que l'Assemblée synodale va faire à la fin de ces travaux, parce que c'est une assemblée, comme je disais, qui est constituée de prêtres, de laïcs, etc. Et ils ne veulent pas ces désirs du pouvoir absolu qu'ils croient détenir. Mais c'est une question d'une simplicité biblique. Hein. Comment ? Non, mais je parle des synodes diocésains. Et les droits canons, effectivement, a établi de façon très, très précise, dans chaque diocèse, on peut le faire, on doit même le faire, mais, étant donné la caractéristique de ces synodes, il y en a beaucoup d'évêques qui renaclent, qui ne veulent pas faire sienne les conclusions que l'Assemblée synodale allait prendre.
Ils ne veulent pas faire sienne, ils ne sont pas d'accord.
Enfin, d'une part parce qu'ils peuvent ne pas être d'accord, et d'autre part parce que sur le principe, ils ne veulent pas céder un gramme de leur pouvoir, pas de leur autorité, de leur pouvoir. D'autant plus que dans ces synodes comme ça, vous ne savez jamais à l'avance ce qui va sortir, même si vous pouvez toujours essayer de manipuler. Bon, ça c'est classique, hein, mais bon, vous n'êtes pas sûr de ce qui va sortir, vous n'êtes pas lier main et pied au peuple de Dieu.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme synode de connu ? Synode de Lourdes, par exemple,
ou... Non. À Lourdes, les évêques, ils font des réunions deux fois par an pour gérer les... Non, synode, je sais par exemple qu'il y en a eu à Tours, qu'il y en a eu... il y en a eu pas mal, hein. À Nanterre, je crois qu'ils en ont eu aussi.
Orléans.
Comment ?
Orléans.
Ah oui, Orléans. Non, Orléans, c'était en plus très, très désanimé, parce que là, pour les coups, l'évêque de Orléans, il avait été quand même très... novateur dans ce truc. Donc, oui.
Qu'est-ce qui est prévu en cas de contradiction entre deux synodes ?
Entre deux synodes, mais c'est...
On peut avoir deux synodes sur le même sujet.
Oui, oui. Deux diocèses. Rien n'est prévu explicitement, parce que d'après les gens qui ont fait les droits canons, ça ne peut pas... Bon, de toute façon, ça doit se résoudre. Ben, comme d'habitude, par la concertation. Qu'est-ce qui s'est passé au concile? Il y a eu des discussions salées. Bah, donc,
c'était dans le cadre du concile.
Oui, tout à fait, oui.
Mais quand il y a deux conciles, normalement, enfin on espère, il n'y a pas trop de contradictions.
Oui.
Bon, alors qu'entre deux synodes, diocésain, il peut y avoir contradiction.
Mais oui, il peut y avoir, mais à ce moment-là, il faut faire œuvre de dialogue et des concertations.
Mais dans quel cadre?
Dans le cadre, d'une part, de la conférence épiscopale des France, et dans le cadre aussi de rapport avec le pape, que là, il jouerait effectivement son rôle principal, qui est celui... ça s'est prévu, même si ça s'est prévu explicitement noir sur blanc, mais ça découle normalement et de façon naturelle du fonctionnement et de l'ecclésiologie propre de l'Église catholique romaine. Ça, c'est...
Mais ça ne remonte pas forcément.
Vous avez...
Je n'ai pas très bien compris. À quel
moment il y a synode? Il y a synode du moment où l'évêque du diocèse décide et convoque. Et lui, il doit voir un peu qui participe, comment on va faire de telle sorte que les gens soient réellement représentatifs de l'ensemble du diocèse, etc. Et l'ordre du jour, s'il propose un ordre du jour fermé, ou comme dans tout ordre du jour correctement fait, il y a tel temps de l'époque, puis ensuite il y a question du vers. Alors là, vous pouvez voir des choses extrêmement variées. Donc, bon. Donc, il faut faire toujours très attention, parce qu'on n'est pas habitué à ça, à faire la différence et regarder de près le degré, le niveau d'autorité que les différents documents possèdent. Ce n'est quand même pas la même chose. Une loi approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat, un texte de la Constitution, une décision du Conseil constitutionnel ou l'arrêté municipal. C'est quand même des grandeurs et des ordres d'autorité très différents. Et il faut... Mais là, c'est la histoire. Le pape a dit quand il s'est levé ce matin, entre la douche et son petit déj, il a dit quoi, et où, comment, pourquoi. On a une habitude d'être un peu trop penché sur les paroles de l'autorité à ce moment-là, mais on ne discerne pas assez. Bon. Je passe donc au chapitre numéro, au coup numéro 8, si vous voulez. Je vais jeter un coup d'œil, ça sera court, mais bon, vaut mieux ça que rien, sur une question qui n'est pas très, très à la mode, mais qui, à mon avis, est d'une très grande importance. Il est très important d'avoir quelques idées claires et des arguments pour les soutenir, à propos d'un certain nombre de points relevant des fondamentaux de la foi. On dit souvent que la Bible est la parole de Dieu. Donc déjà, par exemple, dans la liturgie, après les lectures bibliques, on annonce, surtout après l'Évangile, acclamons la parole de Dieu. Personnellement, je suis un peu obsédé par ça et dans ma communauté, l'évangile est lu par un membre de l'Assemblée. Ce n'est pas forcément le président. Bon. Mais je leur dis toujours, il faut, à la fin, n'oubliez pas de dire, acclamons la parole de Dieu, pas d'autres fariboles comme ça. L'expression est marquée d'ailleurs dans les lectionnaires à chaque fois. Dans d'autres langues, dans d'autres pays, on dit souvent, tout simplement, parole des dieux. Et certains clercs, plus ou moins bien intentionnés, mais relativement ignorants, ils transforment, ils disent, c'est la parole des dieux. Il y a donc une tendance forte à confondre la parole des dieux avec l'écriture, ou une tendance forte à identifier la parole des dieux avec la Bible. Je me souviens travailler il y a déjà au moins 30 ans, ouais. J'aurais été invité dans mon diocèse à faire la conférence inaugurale de l'année en octobre. Le matin, c'était tout un truc avec le prêtre et les soirs avec tout le monde. Bon. Et la première partie de mon intervention, je terminais disant « La Bible n'est pas la parole des dieux ». Bon, maintenant, on va faire une petite pause, ou prendre un café, etc., etc. Et l'évêque qui était à Maroc, tu as bien préparé pour faire ton effet, comme ça, il dit, bah, oui, il faut quand même faire un peu de théâtre. Effectivement, il y en avait qui avaient été très choqués. Mais ces glissements, cette identification entre la parole des dieux et la Bible, il faut se méfier comme de la peste. Oui.
Vous êtes dans la première partie, la canon des Écritures, c'est ça?
Oui, 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 tout à fait. La Bible, Bible, canon, inspiration. Et je suis donc dans la toute première partie du cours numéro 10. 8, pardon.
L'histoire du canon.
Voilà, effectivement. Je commence par l'histoire de la parole de Dieu, justement, pour aller peu à peu vers le canon. Bon. La liturgie de ce point de vue est très explicite et très nette. Nous donnant à comprendre que seul Jésus-Christ peut être compris strictu sensu comme la parole des dieux. Le prologue du quatrième évangile est très clair. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. On a très souvent traduit cette phrase du prologue par le verbe. Ben, le verbe, le prologue de ces termes, c'est pas faux, mais le problème, c'est que c'est la traduction latine du mot logos, qui est le mot grec, et ça c'est devenu dans nos langues romanes, donc français, espagnol, italien, tout ça, le verbe. Mais en dehors de la phrase, il a le verbe « o », c'est un terme qu'on n'utilise pas souvent, sauf, je ne sais pas si vous, dans la conversation, au moment de prendre votre tiramisu, vous utilisez les mots « verbes ». Moi, ça ne m'arrive jamais. Comment ?
Le verbiage.
Le verbiage, oui. Alors, il faut être déjà... oui, non, mais enfin, c'est un terme qui... Si vous me dites, quand vous l'avez entendu à la radio ou à la télé, ou lu dans les journaux, ça sera vraiment... Sauf dans les dictionnaires, je ne pense pas que ce soit un terme qu'on utilise souvent. Bon. Ce qui donne... Comment dire ? Qui met une sorte de brume autour du terme. Normalement, il faut traduire par la parole, parce que derrière ces termes grecs, logos, dans le prologue, on doit penser aussi au monde juif, qui est très présent derrière l'évangile des Jean, et plus particulièrement dans ces célèbres prologues. À l'époque de Jésus, donc après aussi, comme vous savez, les Juifs ne prononçaient pas, quand tu les trouvais en lisant leur Bible, quand ils trouvaient le mot Dieu, ils ne lisaient pas à haute voix ni en privé le mot Dieu avec son nom, mais par respect, ils ne prononçaient pas donc les noms de Dieu et ils substituaient par d'autres choses. Par exemple, les noms. Ou par exemple, la gloire. Ou par exemple, la présence. Ou par exemple, la parole. En araméen, les mots membra. C'était un réflexe automatique. Donc, la parole était une des manières de dire Dieu sans utiliser les noms de Dieu. Bon, c'est pour ça que, pour un juif, le texte du prologue de Jean est très parlant dans le sens de dire oui, la parole était Dieu, d'autant plus qu'il utilisait le terme « la parole » comme un substitut du mot Dieu. Le texte du Concile Vatican II sont relativement pas clairs, surtout dans la constitution Dei Verbum, justement, la parole de Dieu. On parle tantôt des paroles, tantôt d'une parole, tantôt de la parole avec majuscule, tantôt avec la parole en majuscule. Donc, il y a un certain nombre de phrases, même si vous avez fait normal sup, vous aurez du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Enfin, bon. La Sainte Écriture est la parole de Dieu. En tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Là, il faut prendre deux doliprane, ne serait-ce que pour cette phrase. Bon. La rédaction de ces constitutions Dei Verbum a été compliquée et on était à un tournant. Et il y a une tendance, c'est tendance aussi, c'est certaines formulations à faire une identification entre la parole de Dieu et l'écriture. Mais en même temps, il s'est rendu compte qu'il y avait un piège majeur. Du coup, il y a cette ambiguïté des expressions et de temps en temps, on sent très bien qu'il y a quelqu'un qui a mis la main sur le frein. Ils ont dit « en marche arrière ». Ça s'est passé en 1962-63. Et on sortait à peine d'une vision de l'écriture de façon très fossilisante, dans le sens que la Bible est la parole de Dieu. Puis qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs. vous verrez les références que je vous donne, mais dans un premier temps, il faut dire que la Bible est de l'ordre de la trace. Par nature, l'Écriture, elle s'est mise d'emblée dans un rapport d'absence-présence, qui est paradoxal, bien entendu. Car si on s'arrête à la dimension présence, la trace n'est pas une trace. Si la trace que vous voyez dans le sol, c'est la personne qui a fait cette trace, ben, il n'y a plus de trace. C'est la personne elle-même. Si on insiste trop sur le côté présence, ben, il n'y a plus une trace. La trace souligne la différence qu'il y a entre celui qui cherche et ce qu'il cherche. Une trace dit quelque chose de ce qui n'est plus là, donc quelque chose de réel, mais il ne dit pas tout, parce que sinon, ce qu'on cherche serait là. Enfin, vous voyez comme ça. Enfin, si vous suivez dans une forêt la trace d'un renard, par exemple, si la trace dit tout sur ce dont elle est la trace, ben à ce moment-là, le renard est là. Donc, c'est plus une trace. La trace, par nature, dit une présence et une absence, les deux. Par ailleurs, l'écriture qui est devenue un livre suppose un lecteur. Vous me dites, bon, je vois par exemple dans la bibliothèque où je travaille à peu près 50 000 volumes. Et tous les mois, il y a une quinzaine de plus ou même plus. Mais il y a des livres qui n'ont jamais été lus. Et bon, je vois, même moi, dans ma petite bibliothèque, les gens qui viennent comme ça, ils me disent, mais tu as lu tout ça? Je dis, mais non. Il y a des livres qu'on a lus, qui sont même sales, tellement on les a trimballés, touchés, retouchés, etc. Et puis d'autres qu'on les a au cas où, mais ces livres du au cas où sont morts, tant qu'il n'y a pas un lecteur. Tant qu'il n'y a pas un lecteur, l'écriture est morte. L'écriture, comme je dis dans la diapositive, n'est pas seulement une simple transcription de la parole, car l'écriture atteste la vocation de la parole à durer. Ça, on pourrait voir ça de façon très très concrète dans la mise par écrit des oracles prophétiques, par exemple. Pourquoi ? Des interventions qui étaient tout à fait ponctuel pour un moment précis, par exemple pour octobre 735 d'Isaïe, pourquoi est-ce qu'on le lit encore nous? Et pourquoi ils ont eu l'idée de mettre ces interventions par écrit, qui étaient des interventions sur des faits extrêmement précis et concrets, et datés? Pourquoi? L'écriture, donc, n'est pas simplement une transcription de ce qui a été fait. Elle atteste la vocation de la parole à durer dans le temps, à s'étendre dans l'espace. Ça explique parfaitement bien, justement, pourquoi les textes prophétiques, par exemple, ont été mis par écrit, d'autant plus qu'il n'y avait pas ni ordinateur, ni quoi que ce soit, et l'écriture était très chère. Comme disait un de nos profs, un rouleau de la Bible, celui que nous avons dans notre musée, ça mesure quand même 49 mètres de long. Et comme il disait, ça coûtait autant que marier sa fille. Et marier sa fille, c'était pendant une semaine, banquet midi et soir pour tout le village, etc. Donc, l'écriture était très chère. Et en plus, tout le monde ne savait pas écrire. Donc, il fallait payer aussi, c'est lui qui le faisait, etc. Donc, c'était un acte qui n'était pas anodin. N'est pas banal. Alors pourquoi ils l'ont fait? Parce que justement, comme dit l'autre, la parole prophétique avait vocation à durer dans le temps et dans l'espace. Elle est en même temps publique. Dans le sens que la parole biblique vérifie la possibilité pour un groupe de se maintenir comme groupe. Autrement dit, vérifier dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire faire vrai, authentifier l'existence de groupe. La Bible, d'un côté, vérifie l'existence d'Israël, du peuple d'Israël, et plus tard, la Bible avec le Nouveau Testament vérifie, fait vrai l'existence de la communauté croyante parce qu'elle vit par cette Bible et pour cette Bible et de cette Bible. Et dans ce sens, elle est le ciment, la racine et les branches et le feuille et le fruit, tout. Elle vérifie, elle fait vrai. Mais la Bible, non seulement elle est trace de la parole de Dieu, on vient de lire ce commandement, mais elle est aussi en même temps matrice. C'est un peu plus tordu, mais il faut le dire, il faut l'expliquer. Je m'explique. Comme je disais à l'instant, le livre sans lecteur n'a aucune efficacité ni aucune pertinence. C'est une chose morte. S'il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de dialogue entre le message de ces textes et un interlocuteur. La communication n'arrive pas et ne passe pas. Il pourrait y avoir tous les systèmes des communications, des rayons ceci ou des rayons cela, tous les portables, tous les G5. S'il n'y a pas quelqu'un qui le reçoit, on peut toujours courir. D'une part, vous n'aurez personne pour payer et en même temps, la communication ne s'établira pas. Il en faut deux. De manière privilégiée et unique, mais pas exclusive, c'est dans la rencontre de cette écriture, de ces livres, qui est portée, transmise par la communauté, l'Église si vous voulez, par un groupe. C'est dans cette rencontre avec ces données, cette donnée transmise par le groupe, que l'interlocuteur, le croyant, les lecteurs, va trouver la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans la mesure où la Bible est, comme je disais, les moyens privilégiés et premiers, non pas uniques, ni exclusifs, pour rencontrer Jésus-Christ, qui est, lui, la parole de Dieu. Dans ce sens, on peut dire que la Bible est matrice. Non pas parce qu'elle produit la parole de Dieu, mais dans la mesure où elle facilite la rencontre avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est assez clair ou c'est un peu confus comme le temps, et gris comme le temps?
En plus, elle est matrice, moi j'avais initialement, avant vos explications, compris matrice de la tradition, parce que c'est en interprétant
oui,
les différentes interprétations que progressivement on arrive à, sinon...
Mais souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, que la Bible est aussi le fruit de la tradition.
Oui, mais ça peut aller dans l'autre sens.
Dans le sens, tout à fait. Tout à fait. Ah ben oui, tout à fait.
Elle ne produit pas la parole de Dieu, mais elle produit...
Elle est l'instrument indispensable pour la rencontre avec la parole de Dieu du lecteur ou du croyant. Dans la mesure où la Bible est vraiment l'accès premier à Jésus-Christ, qui, lui, est la parole de Dieu. Dans ce sens, on peut dire qu'elle est d'une part, trace et matrice, les deux. Les rapports particuliers de cette écriture avec la communauté ont été présentés traditionnellement avec deux concepts, le canon des écritures et l'inspiration biblique. Premier point donc, le canon des Écritures. Voilà, vous avez là deux textes, disons, d'un dictionnaire classique de théologie pour dire, pour définir le canon. Je vous le lis parce que vous l'avez là, vous l'aurez dans le texte, mais... C'est un texte un peu étouffe chrétien au moins. Bon, les canons des Écritures et la liste ou la collection réglée par la tradition et l'autorité de l'Église, des livres qui, ayant une origine divine et une autorité infaillible, contiennent ou forment eux-mêmes la règle de la vérité inspirée par Dieu pour l'instruction des hommes. Ah ben, plus que compliqué. Mais bon. Les problèmes des définitions, c'est une définition doit tout dire. Et tout, c'est de voir un peu comment on l'organise syntaxiquement. Non, mais vous aurez de quoi. Si un jour, vous avez du mal à dormir, vous pouvez lire ça trois fois de suite et puis ça y est. C'est un remède contre l'insomnie. Et la deuxième manière de faire, de définir la canonicité et la constatation que l'Église fait officiellement par une décision publique ou équivalemment, par l'usage ou la pratique, de cette origine divine et de cette autorité infaillible. J'ai tourné autrement, mais... C'est donc une description classique, au moins dans les traités des théologies fondamentales, nous faisons... dans le traité théologique classique dans l'Église catholique romaine, de définir le canon. Autrement dit, les livres normatifs, entre guillemets. des livres qui forment la règle. Autrement dit, la référence essentielle de la foi chrétienne, la référence normative. L'histoire du canon. Le terme canon, en tant que tel, en dehors du sens français de l'arme classique, ça peut être canon à eau, très utilisé ces derniers jours, ou de canon genre la grosse Bertha, par exemple, ça c'est autre chose encore. Le terme canon est le terme grec. Mais il n'est pas exclu en même temps qu'effectivement il y ait un mot avec la même consonance en hébreu qu'on les trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 40, versets 3 et 5. Dans ces textes, les mots cané désignent une sorte de roseau pour mesurer le mètre. Enfin, un mètre ou une règle. L'unité de mesure pour mesurer. Mais bien, vous pouvez les faire, vous avez des mètres pour les mettre en métal, par exemple, pour les plombiers ou pour les maçons, etc., et les mettre en tissu pour qui?
Les couturiers.
Exactement, pour les couturiers. Moi, j'en ai vu chez moi plusieurs. Usés, jusqu'au moment où on faisait un effort surhumain et on ajoutait un nouveau. Bon. Mais les mots qui, effectivement, renvoie à une règle, à une norme, peut avoir 36 000 sens. Les mots étaient utilisés dans le monde grec aussi, dans le monde profane aussi. Mais, qui dit règle, qui dit norme, dit choix. Tandis, choix parmi un certain nombre de livres et d'écrits. Je cite encore un texte que vous verrez là dans le papier. Souvent, nous sommes traumatisés par l'assimilation faite trop rapidement entre choisir et être hérétique. Étymologiquement, c'est très proche. Les hérétiques ont fait des choix. Mais c'est de là qu'il vient un peu le sens du mot. Pas de façon mécanique, mais du point de vue sémantique, oui. Mais est-ce que le fait de faire un choix est le propre uniquement des hérétiques? Non. Tout le monde a fait des choix. Le Christ aussi, il a choisi 12 disciples, enfin. Les évangiles aussi ont choisi. Le quatrième évangile nous le dit de façon explicite. Beaucoup d'autres signes de faits ont été faits pendant la vie de Jésus, etc. Nous avons pris certains, ceci, pour que vous croyiez. Mais il y en a bien d'autres. Et il dit, il y en a tellement qu'on aurait pu faire des livres qui auraient rempli tout le monde, toute la planète. Il pousse un peu, mais enfin bon. Mais on a choisi. On n'arrête pas de faire des choix. La théologie catholique et la théologie protestante n'ont pas cessé de choisir, même si on prétend trop souvent qu'on ne choisit pas et que ça s'impose. Tout le monde fait tout le temps des choix. Dans les conciles, par exemple, c'est en des positions différentes qu'on choisit. Et c'est tellement clair, comme je l'ai dit, qu'effectivement, tous les conciles, c'est terminé par celui qui ne pense pas comme ça, anathémacite. On faisait des choix et on excluait. L'erreur serait-elle de choisir? Non. Le problème, c'est de mal choisir ou de prétendre qu'on ne choisit pas. Non. Comment, enfin, je dirais quelques mots sur l'histoire de la création du canon biblique. Parce que c'est quand même pas quelque chose qui s'est fait comme ça, à plouf, comme ça. Mais en attendant, on va faire une petite pause pour que vous respiriez. Oui.